Ce besoin de prendre le maquis, comme vous disiez à un moment.
J'ai surtout besoin d'avoir le sentiment que je peux le prendre et que je ne suis pas complètement ceinturé, attrapé au lasso. Oui, une de mes fables de La Fontaine préférée, c'est le loup et le chien. Vous voyez le chien qu'on tient par son collier. Bon, moi, je suis peut-être un loup provisoirement apprivoisé, mais enfin, je veux pouvoir partir, oui, de partout. Je pourrais pas supporter ce que supportent beaucoup de gens. L'autorité hiérarchique, par exemple, c'est quelque chose qui m'est étranger. J'ai beaucoup de chance, je sais que j'ai beaucoup de chance, mais enfin, je l'ai choisi aussi, parce que, d'autre part, dans ce que j'ai choisi de faire, il n'y a pas réellement de sécurité d'emploi, hein. On peut se retrouver complètement à terre. Bon.
Et si on en écoutait, hein, parce que c'est vrai, Guy
Ah,
Bedos,
vraiment pas drôle alors.
un vraiment pas drôle,
Oui,
oui.
sur la bombe atomique, par exemple. Parce que j'ai une
Une
tendresse pour
star
ce sketch,
atomique.
parce qu'effectivement, il fait peur beaucoup à vos collègues de la radio, enfin des radios d'État français et périphériques. D'ailleurs, c'est la même chose, puisque le gouvernement est derrière tout ça. Ne pas perdre de vue. Enfin, d'oreille. il passe pas beaucoup et je l'aime bien. Et le public l'aime bien aussi, en
Alors on
général.
l'écoute?
Ouais.
Bien installé devant votre journal télévisé. Vous attendiez votre présentateur habituel et c'est moi que vous voyez apparaître sur l'écran de votre poste. Vous vous demandez qu'est-ce que c'est que cette tenue de Moyeus? Vous devez me trouver bizarre. Vous avez raison. Et quand vous saurez ce que je transporte dans mon papier journal, allez, je vous le dis, c'est une bombe. Déjà, il doit y avoir une légère angoisse dans les foyers. Mais quand je vous aurais dit le genre de bombe que je transporte. Allez, je vous le dis, c'est une bombe atomique! Ce qui me fait encore plus rire, c'est qu'il y en a qui ne doivent pas y croire! Ils doivent se dire, c'est une blague! Oh la mauvaise blague! Vous pouvez interroger n'importe quel spécialiste de l'énergie nucléaire, on l'a. Ils doivent pas rigoler parce qu'ils savent qu'il faut très très peu de plutonium pour confectionner une arme individuelle terriblement meurtrière. Les malheureux, ils redoutent ça depuis des années avec cette recrudescence de centrales nucléaires un peu partout, ne serait-ce qu'en France, on l'a cédé, hein. C'était banal qu'un jour il y ait une fuite. Et ben c'est arrivé!
J'ai partagé entre l'envie d'écouter tout jusqu'au
Oui.
bout et
Non,
puis
mais il est
l'envie
long,
de vous parler.
il dure 5 minutes.
Parce que l'émission termine à 5 heures, alors
Oui.
ce serait dommage. Mais est-ce que là, vous vous étiez servi de l'actualité, cet étudiant qui s'était confectionné sa petite bombe?
Non, non, non,
Ah
non,
non?
justement pas. C'est arrivé après. Il arrive quelquefois que la réalité se mette à copier la fiction. Non, 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 c'est-à-dire évidemment, il y avait un faisceau de probabilités, c'est évident. Non, non, l'idée m'est venue en regardant Giscard d'Estaing à la télévision parler longuement du plateau d'Albion, de Pluton, etc., etc. Et je me suis dit, ce serait fantastique qu'un type connaisse quelqu'un, je sais pas, le fils de la femme de ménage. Du plateau d'Albion qui ramasse un petit peu de poussière de plutonium et qui se fabrique une bombe pour faire chanter la France, par exemple. Ouais. Et puis après, effectivement, j'ai su que c'était totalement possible. Totalement.
Donc ce sont les thèmes les plus dramatiques qui sont vos favoris finalement.
Oui, non, c'est-à-dire que oui, voilà, c'est un assez bon exemple. C'est qu'effectivement, y a pas moins gai que le péril nucléaire. Ça me fait pas marrer du tout, moi, au départ. Et quand je fais ce personnage, oui, je veux dire aux gens, vous voyez, Ça peut arriver. Ben, ça vaudrait le coup de faire quelque chose. Et d'une certaine manière, là, ça devient plus compliqué pour moi parce que c'est même plus gauche-droite, là, puisque la gauche officielle, en tout cas, reconnaît l'énergie nucléaire et même l'arme nucléaire. Donc là, je lutte aussi contre une partie, en tout cas, de la gauche officielle, car c'est très contesté à l'intérieur des appareils, hein. Il ne faut pas s'y tromper, hein. C'est pas si simple, hein.
Vous êtes tout seul au fond. Je pensais face à l'autorité.
Ah oui, non, même là, je suis pas seul. Je m'en suis aperçu justement à l'occasion de tentatives de censure, enfin caractérisées, tangibles. Ben non, je suis pas seul parce que j'ai du monde derrière moi, avec moi. J'ai un syndicat, j'ai des gens, des copains de la presse. Toute la presse n'est pas pourrie. Ou à genoux. J'ai des gens qui sont bon et qui effectivement dès que la liberté est un peu menacée, même quand c'est une liberté d'expression. Mais attention, on commence par là, hein. On commence par empêcher les gens de parler, et puis un jour on les empêche de respirer.
Vous êtes un méchant qui met les gentils, c'est vrai ça?
Oui, mais
Donc vous
c'est-à-dire que
êtes
moi, si on
né.
m'attaque pas, si moi on m'attaque pas, alors puisque vous me parlez de mon livre, je vais me reciter à propos du livre. J'ai dit, si la vie était un match de foot, je jouerais plutôt
Ah oui, c'était très beau ça.
la défense que la. Alors ne me coupez pas.
Il est vraiment méchant.
Non, c'est pour rire là. Je jouerais la défense plutôt que l'attaque. Disons que je suis un arrière qui ne déteste pas marquer des buts. Même à sa propre équipe.
Il y a un petit côté dans l'interview, m'as-tu vu, m'as-tu entendu, qui me gêne par moment. Encore après tant d'années, vous voyez, là par exemple, je suis en train de parler avec vous depuis un moment et c'est de moi que je parle. Je parle de moi, de moi, de moi, de moi. Et il y a un moment où je me prends en grippe. Ce matin, j'ai donné une assez longue interview au téléphone à une de vos consoeurs et il arrive très vite le moment où je me prends en grippe quand je dis moi, moi, moi. Car le paradoxe, c'est que faisant le métier que je fais, étant extrêmement autobiographique, et dans mes spectacles, et dans mes livres, j'ai le besoin de parler pour les autres aussi, des autres. Je vais pas être gai en vous disant ça, mais tout ce que je fais, si vous voulez, c'est quand même consolidé par une idée absolument dramatique de la vie, à savoir qu'il y a la mort. Il y a la mort qui est là, toujours et toujours, et que ça relativise tout, tout ce qu'on fait.
Mais c'est une obsession comme ça, la mort, vous y pensez tout le temps. Bon, vous en avez peur, pourquoi? Vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de vous-même, c'est
Oui, j'ai très
l'inconnu
peur.
qui vous fait peur?
J'ai très peur de la mort des autres, déjà. Parce que comme j'ai malheureusement, déjà, fatalement, comme ça c'est pas original, perdu des gens en route, trop, et des gens à qui je tenais, je tremble forcément. Je tremble pour. Et j'ai des espèces d'épouvance comme ça, très furtive pour les gens que j'aime. J'ai peur des pas en voiture, j'ai peur de ça. Quant à moi, c'est vrai que je ne veux pas me faire psychanalyser pour ça, parce que justement, il y a des bouquins pour ça. C'est fantastique, le métier qu'on fait. Au lieu de payer, on fait des livres et on les retrouve en livre de poche. C'est bien. Ou bien on fait un spectacle et il y a des gens qui font la queue pour venir vous entendre. C'est le contraire de la psychanalyse. C'est vrai que d'une certaine manière, je veux vivre à la fois ma vie et mon métier, si je peux séparer l'un de l'autre d'ailleurs, parce que ça veut presque rien dire, ma vie, mon métier. Non, ma vie. Je veux vivre ma vie tout entière, métier, vie privée liée, comme si ça allait finir demain. C'est la seule façon, en tout cas, de voir les choses pour quelqu'un comme moi. maintenant. Et puis, c'est vrai que je suis atteint d'une espèce de... Comment dire d'amour-haine de la mort. En même temps que la mort me révolte, l'idée que ça puisse s'arrêter, je parle même pas de cette infirmité qu'est la vieillesse et la manière dont on se met à décliner à partir d'un certain âge. Je vois des gens que j'ai connus, jeunes et beaux, et que je vois déjà sur la pente, et ça me glace littéralement. Je déteste parce que d'abord ça me renvoie une image de moi. Et bon, je sais pas, j'ai pas lu le bouquin de Beauvoir sur Sartre, mais bon, de savoir que Sartre se faisait pis dessus vers la fin de sa vie, c'est triste, quoi. Ça a quelque chose d'humiliant, de terrible. Il y a quelques beaux vieillards, hein. Il y a des gens qui vieillissent très très bien, qui vieillissent d'une façon sublime. J'ai remarqué que les peintres vieillissent bien. Par exemple, je voyais un de vos peintres, un de vos peintres, il n'est pas à vous après tout, c'est un peintre, il est à la peinture, Delvaux. Il est superbe, il est très beau, ils vieillissent bien ceux-là, j'ai remarqué. J'ai remarqué que les peintres, beaucoup de peintres, Picasso, il est mort, son pinceau à la main. C'est un peu graveleux ce que je dis. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors, j'ai tendance évidemment à vivre un petit peu dans l'idée que c'est moi qui déciderai de la longueur du spectacle.
Portrait de Guy Bedos par lui-même en compagnie de Michel Cédric. L'éternel clown triste, le dérangeant, le révolté, un portrait réalisé par Fabienne Pazot grâce aux archives de la Sonuma, en podcast dès ce soir. Thank you.
Retrouvez Par Oui Dire tous les jours de la semaine entre 22 et 23 heures.
Oui.
Oui, oui.
La première.